Il est 8h49, la revue de presse. Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour.
On parle d'argent ce matin.
L'argent qui est partout et jusque dans l'album posthume de Johnny Hallyday. Et si le Parisien crie « Quelle voix pour mon pays, c'est l'amour !» Libération ne parle que du nerf de la guerre et de la manne des albums posthumes car les fantômes chantent. Bowie, Gelin, bientôt Aretha Franklin et Bachung et Morane. Que le spectral commence, dit Libé, car les fantômes dansent aussi sur scène en hologramme depuis Tupac en 2012. Même pas mort Johnny, titre Libération, comprenez, même pas mort pour la Warner, qui espère atteindre dès aujourd'hui les 100 000 albums vendus. Même pas mort Johnny pour le fisc, qui espère récupérer son dû quand un tribunal de Nanterre aura réglé la dispute entre la veuve et les grands-enfants. On parle d'argent aussi dans l'équipe qui évalue nos clubs de football dopés de télévision mondialisée. Le PSG aux supporters chinois vaut 990 millions de dollars. Lyon 467. Pas du tout, proteste le président lyonnais Aulas. Nous valons 865 millions. On parle d'argent et de football dans Mediapart qui révèle la nouvelle mésaventure de Karim Benzema puisqu'un homme accuse des proches du joueur de violence et de tentative d'enlèvement. Oui, mais ce monsieur est soupçonné par Benzema de lui avoir étouffé 50 000 euros, se fâche-t-on pour 50 000 euros. On parle de l'argent qui va à l'argent. Et Marianne rouvre le dossier de la fondation Louis Vuitton, du milliardaire Bernard Arnault, dont les magnificences ont été, dit la Cour des comptes, amplement financées par nous, contribuables, via la niche fiscale du mécénat. Et c'est notre argent qui permet à Bernard Arnault de devancer des musées publics. Beaubourg aurait dû avoir Basquiat, Orsay aurait dû avoir Egon Schiele. Cela va-t-il indigner les populations autant que les péages urbains qui braquent des journaux à peine annoncés? Le retour de l'octroi tonne Midi Libre, qui dans ses pages fait jurer aux grands maires du Midi, Sorel de Montpellier, Fournier de Nîmes, Bascoune de Narbonne, Moudingue de Toulouse, Pujol de Perpignan, qu'ils feront barrage au péage. Pourtant l'impôt, c'est à nous tous.
Le Monde, Claude, fait sa une sur une fraude fiscale gigantesque.
Qui nous aurait coûté, à nous Européens, 55 milliards d'euros. Mais cette arnaque du siècle qui barre la une du journal et qui est pédagogiquement expliquée sur son site ne passionne pas les autres titres. Allons, la Provence y va, l'humanité aussi. Logique, puisque c'est le capitalisme financier qui est dévoilé dans sa ruse. Des banques, des conseillers fiscaux, des avocats, des actionnaires ont utilisé les législations sur les dividendes dans des jeux de bonneteau pour super riches. Transférer ses actions vers une banque ou un havre fiscal Dubaï par exemple, dans un aller-retour qui se pratique au moment des taxes pour éviter l'impôt, ou mieux encore, dans des pays où les actionnaires étrangers se font rembourser l'impôt sur les dividendes, se revendre des milliers d'actions entre actionnaires à la vitesse de la finance instantanée pour tourner la tête des États, se faire rembourser plusieurs fois des taxes qui n'ont été payées qu'une fois, voire pas payées du tout. Vous avez dans cette histoire le vertige du vol à grande échelle, mais aussi un vertige sur notre information à nous citoyens. Car ce qui semble en France dans le monde une révélation ne l'est pas. En Allemagne, le scandale des dividendes est une vieille histoire, purgée par le Bundestag en 2012, saisie par les tribunaux, et le journal Die Zeit avait réalisé une enquête passionnante et minutieuse en juin 2017, parfois reprise par des journaux français comme Libération. Nous ne l'avions pas vue. Je lis dans Die Zeit qu'après cette enquête, des journalistes danois étaient venus dire que eux aussi chez eux avaient des escrocs aux dividendes, et c'est ainsi qu'est née une coopération internationale que le Monde a fini par rejoindre. Et vous lirez sur le site de Corrective, c'est le site de journalisme allemand qui raconte toute l'histoire, qui l'a coordonnée et qui dit comment des reporters se sont fait passer pour de riches héritiers au cœur de la tentation. Lisez ce polar, car si les bandits sont mondialisés, les États ont mis du temps à s'échanger des informations et les citoyens, après les journalistes, doivent lire par-dessus les frontières pour comprendre qui nous menace. C'est plus compliqué que de râler contre un octroi.
Allez, on s'en remet, Claude, avec de la charité, rapidement.
Et on se souvient dans la croix de Sœur Emmanuel, morte demain il y a 10 ans, qui, revenue des bidonvilles d'Égypte, avait été sidérée par la misère des prostituées du bois de Boulogne. Vous lirez dans le Figaro la ferveur de l'Académie française pour accueillir le médiéviste Michel Zinc. Quelle langue ce monsieur qui séduisit son épouse en lui récitant de mémoire Bérénice de Racine. Tiens, à propos de lettres, vous adorez Nicolas. Dans Libération, apprenez que le chat d'Inès de la Fressange se nomme Mosca, comme le comte de la Chartreuse de Parme. So chic, The Happy Few. Et puis The Happy Few, on rêvera avec Ouzbek Erika. Journal papier superbe d'intelligence où l'on apprend qu'il existe en Californie une arche de Noé à moins 196 degrés où sont cryogénisées les cellules d'animaux disparus ou en voie de disparition. Et puis, toujours dans Ouzbek Erika, cette histoire splendide d'un homme qui aurait pu changer le cours de l'humanité. Il s'appelait Jan Sloot, il était hollandais et réparateur de télévision. Il avait trouvé la formule absolue qui permettait la compression des données numériques au-delà de ce que nous connaissons. Un film entier était compressé à 8 kilooctets. Il venait de vendre son invention à Philips quand il est mort, Sloot, d'un arrêt cardiaque dans son jardin. Et sa formule, son code source, n'ont jamais été retrouvés. Il est tel le navire du Hollandais volant, il serait devenu l'homme le plus riche du monde. Est-ce cela que nous avons perdu ?